Vous écoutez, on lit pour vous.
Gay est redevenu une insulte, un texte de Léa Carrier, paru le 2 mai 2025 dans la presse. Des comités LGBTQ+, actifs depuis des années dans des écoles, peinent aujourd'hui à attirer les participants. Certains, au point de suspendre leurs activités. Il n'y a pas un élève qui se présente, s'attriste une enseignante, qui observe une montée de l'homophobie chez les jeunes. Les comités de diversité sexuelle et de genre sont devenus communs dans les écoles secondaires au cours des dernières années. Espaces de rassemblement où les élèves queer peuvent se réfugier, ils visent à promouvoir l'inclusion et à lutter contre l'intimidation à caractère homophobe et transphobe. Mais dernièrement, ils sont désertés. À l'école Nicolas Gatineau en Outaouais, les activités du club ont carrément été mises sur pause cette année, faute de participants. Les élèves ne venaient juste pas, témoigne Andréane Soucy, qui est impliquée dans le comité depuis 3 ans. Pour les attirer, les enseignants ont pourtant tout essayé. Des affiches, des kiosques, même des messages à l'interphone, en vain. À peine un élève souhaitait s'impliquer, comparativement à une dizaine les années précédentes, affirme-t-elle. Sa crainte? Que les jeunes osent moins s'engager dans ce genre de comité par peur d'être stigmatisés. Je l'entends dans les corridors. Gay, c'est redevenu une insulte, déplore-t-elle. Peu ou pas d'élèves. La presse a parlé au personnel scolaire de 5 écoles secondaires qui font face aux mêmes défis. Au Collège de Montréal, le comité LGBTQ+, réunit ses membres une fois par semaine depuis des années. Mais récemment, il a été forcé de réduire ses activités. Les élèves ne se présentaient presque plus, voire plus du tout. « J'ai tout le temps eu des élèves. C'est la première fois qu'il n'y a personne. » Se désole l'agente de service social Geneviève Ross, qui chapeaute le comité. Comme elle, plusieurs enseignants montrent du doigt la montée de l'homophobie pour expliquer cette désertion. En janvier 2025, le groupe de recherche et d'intervention sociale de Montréal a dévoilé une étude démontrant une hausse de l'inconfort des jeunes face à la diversité sexuelle au Québec. C'était la première fois que l'organisme observait un recul du degré d'ouverture des élèves depuis qu'il collige ces données. Des gestes qui en disent long. Je connais des élèves qui ne viennent pas au comité parce qu'ils ne veulent pas se faire identifier, affirme Alexis Lapierre, qui enseigne à l'École de la Cité en Outaouais. Selon elle, la participation a commencé à baisser après la pandémie, en même temps que l'homophobie s'est mise à augmenter. Ses collègues l'observent dans les classes, lorsque des élèves refusent de faire une évaluation parce qu'une question met en situation un couple lesbien. Dans les couloirs, où des affiches de sensibilisation à la diversité sexuelle et de genre sont régulièrement vandalisées. Les affiches, si je ne les plastifie pas, les élèves les déchirent, illustre l'enseignant Christy Parpalita, qui est aussi impliquée dans le comité LGBTQ+, de l'École de la Cité. À l'école Cavelier de La Salle, à Montréal, des drapeaux de la diversité ont été flochés dans les toilettes, témoigne l'animatrice de développement personnel, Virginie Lafleur-Morin. Dans ce climat, elle n'est pas surprise que les jeunes se montrent plus réticents à s'impliquer dans son comité LGBTQ+. « J'ai l'impression qu'ils ont peur des réactions », note-t-elle. Changement de paradigme. À l'école Montbleu, le comité LGBTQ+, rejoint à peine 5 ou 6 élèves sur une base régulière. Rien à voir avec le succès qu'il connaissait à ses débuts en 2018, lorsque ses membres pouvaient remplir 2 locaux. Le recrutement n'est vraiment pas évident, affirme Julie Tassé, animatrice au développement personnel et à l'engagement communautaire à l'école Montbleu. En 2024, aucun élève n'a participé à l'habituel défilé de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie qui se déroulait le 17 mai. Dans le temps, les jeunes arrivaient avec leur drapeau et ils se promenaient autour de l'école, raconte Madame Tassé. Les élèves sont-ils simplement moins engagés qu'autrefois? Cela pourrait être possible si ces autres comités se portaient mal eux aussi, ce qui n'est pas le cas. Selon Madame Tassé, soit les jeunes ne ressentent pas le besoin d'avoir un club, soit ils ont honte ou ils sont gênés. Chose certaine, elle entend des remarques négatives dès qu'elle mentionne la diversité sexuelle et de genre. Quand on met des affiches, il faut les surveiller pour s'assurer que personne ne les enlève, affirme Madame Tassé. Note d'espoir. Le portrait n'est pas complètement sombre pour autant. Dans certaines écoles, les comités LGBTQ+, se portent bien. C'est le cas à l'Académie de Roberval, où une douzaine d'élèves se réunissent chaque mercredi pour organiser des activités de sensibilisation. Faut-il avoir la couenne dure pour s'impliquer dans ce genre de comité, selon eux? Même si la plupart de leurs camarades sont ouverts d'esprit, tous n'ont pas le même degré de tolérance. En 2024, on avait mis des pancartes pour la journée du 17 mai et elles ont presque toutes été arrachées le lendemain, exemplifie Agathe, élève de 3e secondaire. Mais cela ne les empêche pas de s'afficher. Au contraire, on veut normaliser le fait d'être dans la communauté, dit-elle. Que dit l'étude de l'organisme Gris Montréal? Publiée en janvier 2025, l'étude du groupe de recherche et d'intervention sociale de Montréal, Gris Montréal, fait état d'un malaise de plus en plus grand face à la diversité sexuelle chez les jeunes Québécois. L'étude a été réalisée à partir de plus de 35 000 questionnaires remplis par des élèves du secondaire de la province entre 2017 et 2024. Depuis sa fondation il y a 30 ans, le Gris Montréal fait systématiquement remplir un questionnaire aux élèves lorsque ses bénévoles interviennent dans les écoles. Sous le couvert de l'anonymat, les élèves sont appelés à mesurer leur niveau d'aise face à différents énoncés mettant en situation une personne de la diversité sexuelle. Par exemple, « J'apprends que mon frère est gay ». C'est en comparant les réponses aux mêmes questions que l'organisme a conclu que le niveau d'inconfort chez les jeunes avait augmenté dans les dernières années. Par exemple, 25% des répondants disaient éprouver un inconfort face à l'orientation sexuelle d'un ami gay en 2017-2018. Comparativement, à près de 40% en 2023-2024. Similairement, 30% des jeunes se disaient mal à l'aise face à 2 hommes qui se donneraient des signes d'affection en public en 2017-2018 contre 42% en 2023-2024. L'augmentation du sentiment de malaise est plus marquée chez les garçons et chez les jeunes pratiquant une religion, bien qu'elle soit observée dans tous les groupes de jeunes. Moins d'ouverture d'esprit. Pour de nombreux acteurs du milieu scolaire, l'étude est une confirmation de ce qu'ils observent sur le terrain depuis quelques années. Il y a quelque chose qui se passe dans les écoles en ce moment, affirme Pascal Vaillancourt, directeur général d'Interligne. Il y a une dizaine d'années, l'organisme communautaire a créé un guide pour aider les élèves qui souhaitaient mettre sur pied un comité LGBTQ+ dans leur école. À l'époque, le Québec connaissait un élan d'ouverture, rappelle M. Vaillancourt. Mais aujourd'hui, il constate un recul dans l'ouverture d'esprit des jeunes. On fait de la formation dans les classes et ce qu'on voit, c'est une hausse de l'homophobie et de la transphobie, dit-il. Dans ce contexte, il n'est pas surpris que les comités LGBTQ+ peinent à attirer des élèves, soulignant quand même que ce n'est pas le cas dans toutes les écoles. Quand les gens ont peur, ils arrêtent d'être visibles. Ils se cachent, explique-t-il. C'était « Gay, c'est redevenu une insulte », un texte de Léa Cartier, paru le 2 mai 2025 dans la presse.
Quel avenir pour nos assiettes? Un texte de Jessica Bradley, paru dans le numéro avril-juin 2025 du courrier de l'UNESCO. Viande cultivée en laboratoire, insectes, micro-algues. De nombreuses pistes sont explorées pour trouver des sources de protéines susceptibles de satisfaire les besoins de 8 milliards d'individus. Mais pour être adoptés par le consommateur, ces aliments innovants doivent franchir un obstacle de taille. Notre aversion pour la nouveauté. Dans les années 1950, de nombreux auteurs de science-fiction ont imaginé des personnages qui appuyaient sur un bouton pour faire apparaître un petit carré de protéines, explique Annie Gray, historienne de l'alimentation au Royaume-Uni. Ces pilules magiques n'ont jamais fait leur apparition dans nos assiettes. Mais aujourd'hui, face aux défis climatiques et démographiques, la recherche agroalimentaire explore de nouvelles pistes pour parvenir à nourrir 8 milliards d'habitants. De plus en plus de fermes, d'usines et de laboratoires s'emploient à élaborer de nouveaux aliments et des méthodes de production innovantes. Scientifiques et producteurs se concentrent sur la fabrication de protéines de substitution appétissantes, nutritives, accessibles et plus durables que la viande rouge, notamment les insectes, la viande produite en laboratoire, les substituts de repas et les micro-algues. La viande produite en laboratoire est fabriquée à partir d'un échantillon de cellules souches prélevées sur un animal vivant. Ces cellules sont placées avec des nutriments dans un bioréacteur qui reproduit l'environnement de l'organisme de l'animal. Les cellules se multiplient pour devenir des muscles, de la graisse et du tissu conjonctif. Autre substitut possible, les micro-algues comme la spiruline et la chlorelle peuvent être constitués d'une seule cellule ou de nombreuses cellules réunies dans une structure simple qui peut se multiplier en une biomasse abondante et riche en nutriments. Elles peuvent être cultivées dans de nombreux environnements et sont donc idéales pour l'agriculture industrielle. Ginseng et dioxyde de carbone. Mais la recherche de nouvelles protéines ne résume pas les efforts entrepris pour envisager la nourriture de demain. Selon Morgan Gay, futurologue de l'alimentation basée à Londres, la tendance est aussi au développement d'aliments orientés vers notre bien-être. Il s'agit d'ingrédients fonctionnels dont on attend qu'ils agissent sur notre santé et nous protègent de nos fluctuations émotionnelles. La popularité croissante des boissons contenant des ingrédients tels que l'ashwagandha, le ginseng indien, la théanine, un acide aminé présent dans le thé ou le magnésium en témoigne. Plus surprenant, le dioxyde de carbone présent dans l'air pourrait également être converti en nourriture. L'idée n'est pas nouvelle. Elle remonte aux années 1970 lorsque l'Agence spatiale américaine, la NASA, cherchait des moyens pour que les astronautes ne manquent pas de protéines. Les aliments à base d'air sont produits au moyen d'une technologie qui transforme le dioxyde de carbone de l'air en nutriments, notamment en protéines, grâce à la fermentation gazeuse et à une activité microbienne. Une entreprise a récemment produit du poulet, de la viande, des coquilles Saint-Jacques et du poisson à base d'air, en mélangeant des éléments présents dans l'air avec des cultures selon un procédé similaire à celui de la fabrication du fromage ou du yaourt. Les protéines issues de ce procédé sont récoltées, purifiées et séchées. Tabous alimentaires. Mais pour que ces produits innovants s'imposent, encore faut-il qu'ils soient adoptés par les consommateurs. Or, chaque société a ses tabous alimentaires, comme les insectes dans les pays européens. Associés à la malpropreté et aux maladies, ils ont longtemps été assimilés aux insectes nuisibles qui détruisaient les récoltes. Avant d'être intégrés dans le régime alimentaire général, les aliments sont souvent accueillis avec crainte et suspicion. Au début de l'ère moderne, une grande quantité de nouveaux aliments a été acheminée des Amériques à l'Europe, notamment la tomate, l'ananas et le chocolat. Certains de ces aliments ont été accueillis avec méfiance. Un médecin italien écrivait en 1628 que les tomates faisaient partie des choses étranges et horribles que certaines personnes essayaient de manger, explique Eleanor Barnett, historienne de l'alimentation à l'Université de Cardiff au Pays de Galles et auteure de « Leftovers, A History of Food Waste and Preservation ». Les restes, histoire du gaspillage et de la conservation des aliments. Au cours de la Révolution industrielle, la boîte de conserve nouvellement inventée a permis de sauver des vies, en particulier celle des marins victimes de la maladie du scorbut liée aux carences en vitamines, précise Eleanor Barnett, mais elle a également suscité la méfiance. Pour de nombreux citoyens, il s'agissait d'une technologie futuriste inquiétante qui menaçait les méthodes traditionnelles d'alimentation et de conservation des aliments, supposées plus saines et nutritives, explique-t-elle. La fièvre de l'ananas. L'adoption d'un nouvel aliment peut également constituer un marqueur social. L'alimentation est un facteur d'identité lié à l'appartenance de classe. Le fait de consommer une grande variété d'aliments indique que la personne est éduquée, qu'elle a beaucoup voyagé et qu'elle est ouverte d'esprit, assure l'historienne Annie Gray. Réservé aux plus fortunés à son arrivée en Europe, l'ananas a connu un véritable engouement auprès de ceux qui souhaitaient montrer leur appartenance aux classes les plus favorisées. Ce fruit est devenu un symbole de richesse et d'exotisme si populaire que le 18e siècle a connu la folie de l'ananas, raconte Eleanor Barnett. Les aliments nouveaux ont souvent plus de chances d'être acceptés s'ils s'apparentent à ceux que nous connaissons déjà. Ainsi, la cuisine indienne, le thé, le café et le chocolat sont tous devenus acceptables au Royaume-Uni parce qu'ils ont été anglicisés, explique Eleanor Barnett. À l'origine, le chocolat était réduit en poudre, épaissi avec de la farine de maïs, mélangé à de l'eau et du piment et consommé froid. Mais lorsqu'il est arrivé au Royaume-Uni, il s'est transformé en une boisson chaude comme le thé et le café, explique-t-elle. Frankenmeat. Car les aliments n'ont pas seulement une fonction nutritive, ils sont aussi affaires de représentation. Lorsqu'on adopte une nouvelle denrée, on adopte aussi un système de production et les significations lui sont associées. Je ne pense pas que nous puissions encore imaginer manger de la viande de laboratoire si nous l'appelons Frankenmeat, la viande de Frankenstein, déclare l'historienne de l'alimentation Alessandra Pino, chercheuse à l'Université de Catane, Italie, en référence à un surnom souvent donné par la presse à la viande de laboratoire. Tout ce qui concerne ce que nous mangeons est aussi intimement lié à des affects. La plupart des aliments que nous aimons sont associés à des souvenirs et beaucoup sont liés à des récits. Or, les récits liés aux microalgues sont rares, dit-elle. Selon Morgan Gay, l'utilisation d'un langage approprié contribue grandement à persuader les gens de consommer de nouveaux aliments. Le mot « laboratoire », par exemple, ne rend pas service à la viande cultivée en laboratoire, dit-elle, mais d'autres aliments non naturels qui ne portent pas cette étiquette sont rarement remis en question. Les gens n'aiment pas l'idée que les aliments ne semblent pas naturels, et ils n'aiment pas l'idée que des personnes se prennent pour Dieu, mais les raisins sans pépins sont génétiquement modifiés et la truite arc-en-ciel a été créée par l'homme. Nos ancêtres avaient raison d'être hésitants face aux nouveaux aliments. La néophobie, la peur de la nouveauté, est souvent associée à la sécurité. Mais cette méfiance est sans doute moins utile pour les populations qui ont accès à des aliments sains et sûrs. Personne ne peut prédire avec certitude ce que sera notre régime alimentaire dans les décennies à venir et dans quelle mesure nous serons réceptifs aux nouveautés. Mais une chose est sûre, nous continuerons sans aucun doute à fantasmer sur la nourriture de demain parce que notre imagination, elle, est insatiable. C'était « Quel avenir pour nos assiettes », un texte de Jessica Bradley, paru dans le numéro avril-juin 2025 du courrier de l'UNESCO.
Fini les colorants artificiels? Pas si vite. Un texte de Julie Creswell du New York Times, paru le 28 avril 2025 dans Le Devoir. Même céréales, même goût sucré, couleurs différentes. Une boîte de Fruit Loops vendue aux États-Unis contient des anneaux rouges, orange, vert et violette, jaune et bleu vif, des couleurs fluo dérivées de colorants synthétiques tels que le rouge, numéro 40, le jaune, numéro 5, le bleu, numéro 1 et le jaune, numéro 6. Dans une boîte vendue au Canada, les anneaux colorés ont des teintes plus pâles provenant des jus de bleuets, de pastèques et de huitô, un fruit amazonien, et aucun n'est bleu. Le fabricant dans les deux pays, W.K. Kellogg, anciennement connu sous le nom de Kellogg Company, est clairement capable de produire des Fruit Loops sans colorants synthétiques. La question est la suivante. Cette entreprise et d'autres grandes sociétés alimentaires adopteront-elles cette approche aux États-Unis? Et les consommateurs habitués aux céréales aux couleurs vives, aux nachos rouges vifs et aux boissons énergisantes bleues fluo, voudront-ils de ces aliments s'ils sont un peu plus beiges? Robert F. Kennedy Jr., secrétaire du département de la santé et des services sociaux, le souhaite, Mardi, M. Kennedy, qui critique depuis longtemps les colorants artificiels utilisés dans les Fruit Loops et d'autres aliments transformés dans le cadre d'un système alimentaire plus large qui, selon lui, contribue aux maladies chroniques et à la mauvaise santé, a annoncé qu'il était parvenu à un terrain d'entente avec les principaux fabricants alimentaires pour supprimer les colorants alimentaires à base de pétrole couramment utilisés dans leurs produits d'ici 2026. La signification de « terrain d'entente » reste floue. Aucune entreprise alimentaire n'était présente lors de la conférence de presse et rares sont celles qui ont déclaré vouloir supprimer les colorants synthétiques actuellement autorisés par la Food and Drug Administration, FDA. Mais un changement pourrait être en vue. Cette semaine, invoquant la demande anticipée des consommateurs, le géant des boissons Pepsi-Cola, qui fabrique également les chips Doritos et Lay's, a déclaré qu'il allait soit supprimer progressivement les colorants synthétiques, soit proposer aux consommateurs des options de colorants naturels dans les deux prochaines années. Kennedy espère peut-être que son influence en tant que directeur de l'agence qui supervise la FDA suffira à pousser les grandes entreprises alimentaires à changer leurs pratiques. Elles ont déjà réagi à la pression par le passé. Il y a une dizaine d'années, plusieurs entreprises ont tenté de passer à des colorants naturels. Kraft, notamment, a réussi à reproduire la couleur orange caractéristique de son macaroni au fromage en utilisant du curcuma et du paprika. Mais d'autres entreprises ont rencontré des difficultés. Certaines sont revenues aux colorants synthétiques après une chute de leurs ventes. Pour certains détracteurs des colorants synthétiques, l'annonce de M. Kennedy a toutefois été une déception. Le Dr. Peter Lurie, ancien responsable de la FDA et directeur exécutif du Center for Science in the Public Interest, a déclaré que le gouvernement devrait prendre des mesures plus énergiques pour éliminer ces colorants. L'histoire nous montre que compter sur la conformité volontaire de l'industrie alimentaire s'est trop souvent révélé être une entreprise vaine, a déclaré M. Lurie dans un communiqué. Réécrire la recette. Quelle que soit la pression exercée par Washington, le passage aux colorants naturels ne se fera pas du jour au lendemain. Il ne suffit pas de remplacer le jaune numéro 6 par du jus de carotte, dit James Herrmann, directeur des colorants alimentaires chez Sentient Technologies, une entreprise qui fabrique des colorants artificiels et naturels pour l'industrie agroalimentaire. Il faut parfois jusqu'à 2 ans pour développer les graines, cultiver les plantes et concocter la combinaison, par exemple, d'extrait de chou rouge et de carotte noire qui produit la teinte souhaitée, explique-t-il. Et il ne s'agit pas seulement d'obtenir la bonne couleur. Les entreprises alimentaires devront probablement adapter leurs processus de fabrication et leurs installations. La lumière et la chaleur sont les ennemis des colorants naturels, car elles les font pâlir, changer ou même, dans certains cas, se séparer, explique M. Herrmann. Les colorants naturels doivent être conservés au frais et ont une durée de conservation relativement courte, ce qui implique de les réfrigérer et d'assurer un approvisionnement régulier, ajoute-t-il. Il précise que les colorants issus du jus de carotte ou de betterave et leurs équivalents synthétiques peuvent avoir des viscosités différentes, ce qui oblige les usines à changer les pompes ou les tuyaux utilisés pour les appliquer. De plus, il faut davantage de colorants naturels que de colorants synthétiques pour obtenir une couleur satisfaisante, ce qui peut nécessiter une reformulation des recettes. Votre sucre ou votre farine peut ne pas convenir, note M. Herrmann. Et cela en supposant que l'on dispose de suffisamment de carottes, de choux, de betteraves et de spiruline, une algue, pour reproduire les couleurs orange, verte et bleue des chips et des boissons pour sportifs. M. Herrmann, dont l'entreprise utilise des graines exclusives pour la plupart de ses colorants, dit qu'il ne mettrait pas les graines en terre avant de savoir qu'il y a un client pour les acheter. Si tout le monde change en même temps, ajoute-t-il, il n'y aura tout simplement pas assez de matières premières disponibles dans le monde pour répondre à la demande. Comme il faut parfois 10 fois plus de colorants naturels que de colorants synthétiques pour reproduire une petite quantité de ces derniers, les coûts risquent fort d'augmenter. Mardi soir, la Consumer Brands Association, l'organisation professionnelle de l'industrie alimentaire, a déclaré dans un communiqué que les ingrédients présents dans les aliments se sont avérés sûrs et que leur suppression ne change en rien l'engagement de l'industrie des produits de consommation courante à fournir aux consommateurs des produits sûrs, abordables et pratiques. Stacy Flatto, co-directrice des affaires générales chez W.K. Kellogg, a déclaré dans un communiqué envoyé par courriel que 85% de ces céréales ne contenaient pas de colorants artificiels, mais que l'entreprise supprimait les colorants synthétiques de ceux vendus dans les écoles. La société a ajouté qu'elle se réjouissait de travailler avec la FDA pour déterminer les moyens de supprimer les colorants artificiels des aliments qui en contiennent. Cultiver des colorants à partir de zéro. Les inquiétudes concernant la sécurité des colorants alimentaires, en particulier leur effet sur le comportement des enfants, sont de plus en plus vives. Une évaluation sanitaire réalisée en 2021 par l'État de Californie indique que les colorants alimentaires synthétiques sont associés à des comportements tels que l'inattention, l'hyperactivité et l'agitation chez les enfants sensibles. En Europe, les aliments contenant certains colorants sont accompagnés d'une étiquette d'avertissement à ce sujet. Santé Canada, qui autorise l'utilisation des colorants alimentaires, mais avec des restrictions strictes sur les quantités, indique sur son site Web qu'elle estime que les preuves de ces effets chez les enfants sont insuffisantes. La Californie a interdit les colorants artificiels dans les repas scolaires en 2024 et, le mois dernier, la Virginie-Occidentale a promulgué une interdiction à l'échelle de l'État la plus complète du pays. D'autres États envisagent des restrictions. Sanchient avait constitué son portefeuille de colorants naturels en partant du principe que d'ici 2030, les entreprises alimentaires auraient abandonné les colorants synthétiques, mais le calendrier pourrait s'accélérer. Sanchient développe ses colorants naturels à partir de graines. L'entreprise a par exemple mis au point une variété de betteraves plus grosses et plus colorées, explique M. Herman. Elle fournit ses graines à des agriculteurs sous contrat dans le monde entier. Une fois les produits récoltés, Sanchient réduit en pulpe, pulvérise et filtre les patates douces violettes, les radis rouges et les raisins pour obtenir une gamme d'extraits, de poudres et de liquides aux couleurs de l'arc-en-ciel. Selon M. Herman, environ 80% des nouveaux aliments et boissons mis sur le marché ces dernières années sont fabriqués à partir de colorants naturels. Mais les entreprises alimentaires ont tardé à adopter cette tendance pour leurs produits populaires, craignant que les consommateurs les rejettent. Elles doivent comprendre ce que veulent leurs fans inconditionnels, dit-il, et s'assurer que le produit naturel se rapproche le plus possible des teintes synthétiques. C'était « Fini les colorants artificiels? » Pas si vite. Un texte de Julie Creswell du New York Times, paru le 28 avril 2025 dans Le Devoir.
Indécence et oligarchie, un texte de Boukhar Diouf, paru le 3 mai 2025 dans La Presse. Je ne sais pas si vous avez vu ce mème qui circule sur les réseaux sociaux et qui explique sarcastiquement la répartition de la richesse dans nos pays. Cette histoire, dont on ne connaît pas l'auteur, est d'une grande justesse. Elle s'intitule Notre système économique expliqué par des biscuits. Je vous la résume. Assis à une table, un ultra-riche, un pauvre et une personne de la classe moyenne se partagent 20 biscuits. L'ultra-riche s'approprie 19 biscuits et en laisse un aux représentants de la classe moyenne. Comme vous pouvez le deviner, le pauvre finit avec rien à se mettre sous la dent. Pendant ce temps, l'ultra-riche dit au gars de la classe moyenne que le pauvre va lui voler son biscuit. Voilà la mystification au cœur du néolibéralisme qui mène la planète au bord du gouffre. Pour mettre une image reconnaissable sur cette histoire, pensez à Elon Musk charcutant des programmes fédéraux pour priver des milliers de fonctionnaires de leur gagne-pain. Le comble de l'indécence, c'est de s'asseoir sur une fortune de plus de 400 milliards et de travailler à couper les vivres à des gens dont on assimile le simple salaire à du gaspillage. Pensez aussi à tous ces autres milliardaires qui gravitent autour de M. Trump et qui se frottent les mains en attendant les baisses d'impôts que le président leur a promises. Même si Donald Trump ne veut pas que les fanatiques de l'idéologie MAGA comprennent son manège, les tarifs sont des morceaux de biscuits qui seront arrachés aux Mars laborieuses pour être convoyés vers ceux qui dorment déjà sur des montagnes de galettes. On appelle ces gens des ultra-riches, mais la grande majorité est constituée de fossoyeurs de la biosphère érigés en modèle de succès par une idéologie néolibérale qui sanctifie les super-prédateurs. La nature est devenue un buffet ouvert pour une minuscule partie de la population mondiale. Ces gens sont prêts à raser des écosystèmes entiers pour ajouter quelques milliards à leurs avoirs. Cette indécence qui squatte une certaine humanité est écologiquement et socialement suicidaire. Il faut être inconscient pour ne pas réaliser que nous vivons désormais sur du temps emprunté à nos petits-enfants. Seul le retour à un partage un peu plus juste de la richesse pourra nous aider à éviter ces grandes turbulences qui avancent vers notre monde. Ces gens qui cherchent à engranger toujours plus, sans payer leur juste part du fardeau fiscal, ne font pas partie de la solution. Juchés sur des montagnes de ressources suffisantes pour vivre confortablement pendant des milliers d'années, ils en veulent toujours plus. Résultat, sur la planète, ceux qui cherchent le minimum nécessaire sans le trouver s'empilent misérablement devant ceux qui ont trouvé beaucoup sans jamais être satisfaits. Plus malsain encore, ces privilégiés emploient de nébuleux stratagèmes pour éviter à leurs héritiers un impôt sur les successions. Entendons-nous bien. Je ne suis pas contre l'enrichissement décent ou la juste économie libérale. Je conspue simplement ceux qui utilisent des méthodes éthiquement douteuses pour ne jamais payer les impôts. Enivrés par le pouvoir et la dopamine, ces ultra-riches sont désormais prêts à tout pour être le premier à posséder 1 000 milliards de dollars. Les paris sont ouverts. Sur la ligne de départ de cette nouvelle course, l'organisation caritative Oxfam America identifie Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Ellison, Mark Zuckerberg, Bernard Arnault. Avant 2030, dit l'organisation, un gagnant devrait être couronné. En attendant la naissance de ce grand roi des riches, de nouveaux milliardaires continuent d'apparaître dans les palmarès du magazine Forbes. Grâce à la flambée des marchés boursiers, dit Oxfam en 2024, le nombre de milliardaires est passé à 2769 contre 2565 en 2023. Pendant ce temps, Le taux de pauvreté dans le monde est resté pratiquement inchangé depuis les années 1990. Ce qui est encore plus effrayant, c'est de constater que certains de ces ultra-riches travaillent à brouiller les pistes en nous présentant le wokisme, l'identité sexuelle et de genre, l'avortement et les programmes d'équité, de diversité et d'inclusion, EDI, comme étant les problèmes majeurs auxquels leurs sociétés sont confrontées. Même s'il y a des correctifs à apporter dans certains de ces dossiers sociaux, leur instrumentalisation sert en grande partie à racoler les bas instincts de notre espèce. Les véritables problèmes de l'humanité se trouvent mille fois plus dans cette ultra-concentration de la richesse qui mène l'humanité et la biodiversité au bord du précipice. C'est cette gourmandise qui mérite d'être régentée sévèrement par des lois. Les stratégies d'évitement fiscal de toute nature, ces méthodes éthiquement condamnables, sont le véritable cancer social auquel il faut s'attaquer urgemment. Ils sont bien plus préoccupants que des fonctionnaires qui gagnent le juste nécessaire pour assurer leurs besoins de base dans la pyramide de Maslow et payent leur juste part d'imposition. La morale de mon histoire est la suivante. On jugera Mark Carney, qui vient d'être élu, à ses réalisations. Mais si l'on considère toutes les traces directes ou indirectes qu'il a laissées sur son sillage dans les cercles de la haute finance, il a flirté indéniablement avec ce monde. Pour nous rassurer, il nous a dit grosso modo que ses connaissances acquises sur les paradis fiscaux sont des atouts qu'il peut mettre au service de la justice fiscale au Canada. C'est noté, M. Carney. On va attendre de le voir pour le croire. Allez-vous nous dessiner un Canada où les grands mangeurs de biscuits partagent, ou allons-nous les laisser se gaver paisiblement à côté de la précarité alimentaire de plus en plus préoccupante? Puisque vous nous avez répété que vous connaissez bien ces pratiques, nos attentes sont très élevées. On a hâte de voir quel bord vous allez choisir. À suivre. C'était Indécence et oligarchie, un texte de Boukhard Diouf, paru le 3 mai 2025 dans la presse.
Le sacrifice d'un vingtenaire altruiste, don d'un rein à un inconnu. Un texte de Caroline Touzin, paru le 26 avril 2025 dans la presse. La chose la plus gratifiante de ma vie. Quand Cérick Plong avait 16 ans, sa mère lui a offert un livre de vulgarisation scientifique sur l'anatomie humaine. Le genre de livre qu'une maman offre pour stimuler l'appétit scientifique de son ado. Un beau livre en 3D. Chacune des pages correspondait à une couche du corps humain. Sa mère ne s'en doutait pas alors, mais elle a fait pas mal plus que nourrir sa passion pour les sciences. Elle a fait germer une idée dans la tête de son fils qui allait sauver la vie d'inconnus. Parenthèse, Cérick enseigne aujourd'hui les sciences au secondaire, alors l'objectif maternel initial a été atteint. À la page du « système excréteur », mettant en vedette les reins et la vessie, une phrase a retenu l'attention de l'adolescent. Le jeune homme, qui a aujourd'hui 28 ans, la cite de mémoire. « Il y a des gens qui ont un seul rein et qui vivent bien ainsi, avec des conditions de vie à peu près égales au reste de la population générale. Si tu peux bien vivre avec un rein et qu'il y a des gens qui ont besoin d'un rein, c'est mathématiquement 100% clair qu'il faut que je donne », s'est alors dit l'adolescent. Comme Cérick était mineur à l'époque, il a dû mettre son projet sur la glace. Début vingtaine, il n'en démord pas. La réaction spontanée de sa mère est catégorique. Non, ça ne se fait pas. Et si tu développes des problèmes de santé plus tard, d'autres proches de renchérir, ne veux-tu pas le garder au cas où ton éventuel enfant en aurait besoin? Un côté tech-nerd. Comme il a un côté tech-nerd, l'expression vient de lui, Cyric Plong a lu beaucoup de littérature scientifique en plus de faire ses propres calculs. Mon futur enfant, même si je ne suis pas certain d'en vouloir, a un risque très faible de développer de l'insuffisance rénale terminale, 0,15% selon mes lectures. La personne à qui j'ai donné mon rein a 100% de chance d'être en insuffisance rénale terminale, souligne-t-il, et de poursuivre. Il faudrait donc que j'accorde à la vie de mon enfant une valeur beaucoup plus élevée qu'à la vie d'un étranger, environ 600 fois. Pour moi, c'est un ratio qui n'est pas acceptable. L'insuffisance rénale est l'incapacité des reins à filtrer le sang et à le débarrasser de ses déchets. Personne n'allait le faire changer d'idée. C'était non négociable, dit le sympathique vingtenaire. Sa mère a fini par l'appuyer. En 2020, le jeune homme trouve un numéro de téléphone pour joindre le département de médecine interne de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. « Avez-vous besoin d'un rein ? » a-t-il demandé. S'ensuit une batterie de tests physiques et psychologiques échelonnés sur 2 ans, la pandémie ayant ralenti le processus afin de se qualifier comme donneur. Il fallait voir l'air abasourdi de ses colocs devant la tablette du frigo où leur jus de pomme côtoyait le contenant d'échantillons d'urine nécessaire pour un test. Ce dernier était tout de même caché dans un sac de papier brun, précise-t-il en riant. Chaîne de solidarité. À 26 ans, Cyric Plong a ainsi donné un rein de façon altruiste. Le geste est plutôt rare. Dans le jargon, il a fait un don non dirigé ou don sans receveur prévu. Lancé en 2009 par la Société canadienne du sang, SCS, le programme de dons croisés de reins permet de jumeler des donneurs vivants avec des personnes en attente d'une greffe rénale. En inscrivant son don dans une chaîne de solidarité, le donneur contribue à sauver un plus grand nombre de vies. C'est que certaines personnes en attente d'une greffe ne sont pas biologiquement compatibles avec la personne qui souhaite leur donner un rein. Par exemple, vous voulez donner un rein à votre conjoint, mais c'est impossible car vous êtes incompatibles. Alors, vous serez jumelé avec un autre duo qui vit la même chose. Depuis sa création il y a 16 ans, le programme a facilité les dons de quelque 260 donneurs sans receveur prévu, dont 35 du Québec. À ce jour, le jeune enseignant du collège Regina Sumta ignore de combien de gens en attente d'une greffe était composée sa chaîne de solidarité. Au Canada, une telle chaîne peut aller jusqu'à 6 personnes selon la SCS. « Je ne pense pas que je veux le savoir, dit-il, ça aide à la pureté idéologique du geste. » Chose certaine, c'est l'une des choses les plus gratifiantes, sinon la plus gratifiante, que j'ai faite de ma vie. Loin de lui, l'idée de banaliser la chirurgie ni la douleur associée au premier jour de la convalescence, mais, insiste-t-il, c'est rare d'avoir le luxe de savoir à 100% que c'est la bonne chose à faire. Et puis, le jeune enseignant pouvait compter sur un réseau de soutien. Sa mère, le choc passé, l'a accueilli chez elle et dorloté durant sa convalescence. « Durant 2 semaines, j'ai été limité, décrit-il. C'était comme un preview d'un âge vénérable. C'était plus ardu de marcher, de contracter mes muscles abdominaux, mais c'est à peu près tout, dit-il. L'enseignant doit conserver un mode de vie sain. C'est quelque chose que je prévoyais de faire de toute façon, lâche-t-il toujours souriant. De singulières vacances. Sa seule exigence dans le processus, subir l'opération durant ses vacances d'été. Un excellent investissement de mon temps, fait-il valoir. J'ai fait ma rentrée après, comme sur des roulettes. Les gens qui ont accepté le plus rapidement son geste sont les membres de sa famille issus de la communauté khmère du Cambodge. Sa grand-mère, dont il est très proche, est bouddhiste. Il se décrit lui-même comme bouddhiste non pratiquant qui va à la pagode 3 fois par an pour faire plaisir à sa grand-maman, comme le catholique non pratiquant va à l'église à Noël et aux funérailles. Dans la communauté, il y a une certaine glorification du sacrifice, ou peut-être que c'est juste ma grand-mère qui met l'accent là-dessus, lance-t-il en riant. Il y a l'idée que le don de soi donne du bon karma. L'enseignant en a parlé quelquefois des élèves sans faire de prosélytisme, tient-il à préciser. Des collègues de 3e secondaire qui devaient enseigner le système excréteur lui ont déjà demandé de raconter son expérience. Ça ajoutait une touche personnelle à la théorie. Toujours de sa perspective de tech nerd, le don de son rein est guidé par l'idée d'optimiser l'existence humaine. Mais il y a tellement d'autres façons de s'engager dans la communauté, lui ont fait valoir des gens de son entourage. À ses yeux, son don est un geste ponctuel avec un impact majeur pour réduire la souffrance d'un autre. Pour moi, ce rein appartenait plus à la personne qui en a eu besoin qu'à moi. Cyric Plong s'étonne qu'on s'étonne de son geste. C'est comme si j'allais à la ronde. J'ai foule de plaisir, puis quand je sors, on me félicite d'y être allé. Vous écoutez le sacrifice d'un vingtenaire altruiste, don d'un rein à un inconnu, un texte de Caroline Touzin paru le 26 avril 2025 dans la presse. Un geste salvateur, mais plutôt rare. Le don altruiste de Cyric Plong étonne. Entrevue avec le docteur Michel R. Paquet, néphrologue au CHUM et directeur médical du programme québécois de dons vivants de reins, pour démystifier le geste et ses conséquences. Peut-on vraiment donner son rein au début de sa vie adulte et bien vivre le reste de sa vie? La réponse courte est oui. Si on n'a pas de facteur de risque et qu'on maintient ses bonnes habitudes de vie après le don, il est possible de vivre avec un seul rein. Par facteur de risque, on entend diabète, tabagisme, surplus de poids, hypertension. Prenons un exemple extrême. Il y a quelqu'un qui arrive à l'hôpital puis qui dit « Je veux donner un rein ». Mais il a eu un pontage cardiaque. Il est hypertendu, diabétique et obèse. C'est sûr qu'on va lui dire « Vous ne pouvez pas donner, gardez vos deux reins, vous allez en avoir besoin ». À l'inverse, la personne qui est en parfaite santé, qui fait de l'exercice, qui a des bonnes habitudes de vie et qui n'a pas de surplus de poids, pourra sans doute donner un rein une fois l'évaluation faite. Puis, entre les deux, il y a des zones grises, et c'est pour cela qu'on suit les critères nationaux et internationaux encadrant le don vivant. Le bilan physique et psychosocial qui est fait chez tous les candidats sert justement à s'assurer que c'est sécuritaire pour le donneur. Concernant les risques de complications reliés à la chirurgie en tant que telle, cette dernière est considérée comme une chirurgie à très bas risque. Est-ce que la greffe rénale avec le rein d'un donneur vivant est un meilleur traitement pour les patients souffrant d'insuffisance rénale que celle d'un donneur décédé? Oui, c'est la raison pour laquelle on le fait. Pour les personnes qui ont une maladie rénale sévère, une maladie qui a touché les deux reins au point où ils atteignent 10% d'une fonction normale, il faut trouver une façon de filtrer le sang. Le traitement, c'est soit la dialyse, soit la greffe. Si on compare la transplantation à la dialyse sur un grand groupe de patients avec un âge et une maladie comparables, on voit que ceux qui ont eu une transplantation rénale vont beaucoup mieux. Ils ont un meilleur état de santé, une meilleure qualité de vie et une meilleure espérance de vie. Maintenant, il y a deux façons de faire la greffe avec le rein qu'on prélève chez une personne décédée ou le rein qu'on prélève chez une personne vivante. Là encore, quand on compare, on voit que ceux qui ont une greffe avec le rein d'une personne vivante, Leurs reins ont une meilleure efficacité de filtration et ils durent plus longtemps en nombre d'années que ceux qu'on transplante d'un donneur décédé. Et si c'est possible de faire la greffe avant même de commencer les traitements de dialyse, c'est encore mieux pour le patient. Est-ce que le don vivant est un phénomène marginal au Québec? Malheureusement, oui. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied un programme québécois pour augmenter le don vivant au Québec et pas juste le nombre des donneurs non dirigés. Il y a 5 hôpitaux au Québec où il se fait du don vivant. Depuis qu'on a mis sur pied le programme, on a augmenté d'à peu près 60% le nombre de dons vivants au Québec. Avant qu'on mette ce programme-là sur pied au Québec, il a été annoncé en 2018, mais a pris son envol pendant la pandémie vers 2021, on faisait en moyenne entre 50 et 55 dons vivants par année au Québec. Puis, si on rapporte ça à la population du Québec, qu'on se compare à d'autres provinces, on était la province où il y avait le moins de donneurs vivants par million de population, des PMP, avec 5 à 6 des PMP. Maintenant, on est au-dessus de 80 dons vivants par année, donc 8 des PMP. Notre objectif, c'est de nous rendre à tout le moins à 100 donneurs vivants par an. On est en route, mais on n'est pas tout à fait arrivé. Comment pourrions-nous être meilleurs au Québec et rejoindre la moyenne canadienne? L'une des choses les plus importantes, c'est ce que vous allez faire en publiant votre article. C'est d'en parler. Quand les médias en parlent, ils atteignent un grand nombre de personnes. Vous êtes des collaborateurs hyper importants dans cette démarche-là pour faire connaître le don vivant en général, pas juste le don non dirigé comme celui de M. Plong. Et c'est de s'assurer que les patients qui ont la maladie rénale soient au courant de cette option-là pour qu'ils en parlent à leurs proches susceptibles de se qualifier comme donneurs. On explique que c'est le meilleur traitement, que la chirurgie est à faible risque pour le donneur, etc. La stratégie, c'est de sensibiliser et informer pour, entre guillemets, générer des vocations. On a mis en place plusieurs mesures pour faciliter l'évaluation des candidats aux dons vivants, pour rendre le bilan plus efficace et plus rapide. Mais, encore une fois, ça commence par en parler. C'est ça qui fait une différence importante. C'était le sacrifice d'un vingtenaire altruiste, don d'un rein à un inconnu, un texte de Caroline Touzin, paru le 26 avril 2025 dans La Presse.